The world is a motherfucker, damn right. So now when you see the beat on no sight, you see it's tight on you, green light on you. Got your whole hood paying for that dirt you do. Had 17 niggas fall deep in the place. 17's tucked up under their waist. Niggas see my face, niggas know my name. And that sick-witted hog shit that I claim. My dumb bang bang, I'm a D-boy bitch. But it's fully automatic for the static and shit. I'm from the hillside, got the plug with the meth. You bring me methamphetamines, Tommy's a test. The man respect, I either break mine off. We ain't gotta talk, surround your body in chalk and do the shit walk. That was that shit you feet. Got your body back floating up shit quick. The world is a motherfucker.
The world is a motherfucker. How should be on under.
Bitch, please stop blowing me up. Your pussy kinda good, but I ain't wanting to fuck. You ain't got no loot, so what the fuck is the use? And me, I'm on pursuit of a prostitute. I don't big pimp, but the game like this though. The bitch shows you, so you send that hoe. Been for a wardrobe and don't get nervous. We calling this be legit escort service. Don't stop for the blacks, just Japs or Filipinos. And back to Reno. You see no foul, it's off in the womb. Gonna be the first pimp to send a bitch to the moon. When I'm done with that, I teach gangs so raw that all of them become my wives and laws. One big family in the gang of rockers. Man, the world is a motherfucker.
Sun in the winter, something going on, what the fuck wrong? They talk about this when the world beginning, and the sad part about it is just beginning. Am I winning? Man, I ain't know.
De vive voix, c'est du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 14h à Beyrouth.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Le ministre de la Défense israélien affirme que l'armée va s'emparer d'une partie du sud du Liban.
Et tant que la sécurité des habitants du nord d'Israël ne sera pas assurée, insiste Israël Katz, les déplacés libanais ne pourront pas revenir dans le sud du Liban. On appelle dans un instant notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Au Danemark, on vote ce mardi pour les législatives. La sociodémocrate Mette Frederiksen va tenter de décrocher un troisième mandat, élection que la première ministre a organisée pour profiter de la popularité de son opposition à Donald Trump qui veut s'emparer, rappelons-le, du Groenland.
Vaste accord de libre-échange, il a été signé tout à l'heure par l'Union européenne et l'Australie.
Texte signé en Australie par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après plusieurs années de négociations et même un échec. Ce mardi, les principaux syndicats agricoles d'Europe dénoncent des concessions inacceptables. À suivre aussi les règlements de compte au PS après le deuxième tour des municipales en France. Les alliances de l'entre-deux-tours avec LFI n'ont que rarement fonctionné. Et puis à la fin de ce journal, on s'intéressera au retour peut-être en concert de Céline Dion, d'autant que cela pourrait être à Paris.
L'Iran menace Israël de lourdes frappes de missiles et de drones.
Oui, si je cite, il continue ses crimes contre les civils du Liban et de Palestine. Israël, qui affirme avoir mené la nuit dernière 7 raids aériens sur la banlieue sud de Beyrouth et avoir capturé 2 combattants du Hezbollah dans le sud du pays. Israël, dont le ministre de la Défense affirme que l'armée va s'emparer d'une partie du sud Liban, une zone courant sur 30 km de la frontière jusqu'au fleuve Litani, plus au nord. Objectif, assurer sa sécurité. À Jérusalem, Michel Paul.
Le message d'Israël Katz est sans équivoque. Tant que la sécurité de la Galilée n'est pas scellée, les centaines de milliers de déplacés libanais ne seront pas autorisés à regagner leur village au sud du fleuve Litani. Lors d'une évaluation de situation avec l'état-major, le ministre israélien de la Défense a martelé un principe de fer. Là où il y a du terrorisme et des missiles, il n'y aura ni maison ni habitants. Sur le terrain, l'armée muscle sa stratégie de coupure. Cette nuit, l'aviation a détruit un cinquième pont stratégique sur le Litani pour paralyser les transferts d'armes du Hezbollah. Mais l'offensive franchit un nouveau cap. Israël annonce désormais vouloir contrôler physiquement tous les axes restants et instaurer une véritable bande de sécurité allant jusqu'au fleuve de 5 à 30 km de largeur. L'objectif est double, empêcher toute infiltration similaire au 7 octobre et maintenir une présence militaire directe dans cette zone tampon. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et nous reviendrons sur ces annonces israéliennes, ces ambitions d'occuper une partie du sud du Liban dans une dizaine de minutes avec notre invité Joseph Baout, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. En Iran, ce matin, l'agence de presse Fars affirme de son côté que deux infrastructures énergétiques ont été ciblées par des frappes israélo-américaines.
Oui, à Ispahan, dans le centre, et à Khorramshahr, dans le sud-ouest, où c'est le gazoduc d'une centrale électrique qui aurait été touchée. Une annonce qui intervient après la promesse hier de Donald Trump de ne pas frapper pendant encore 5 jours les centrales électriques de l'Iran. À l'origine, le président américain menaçait de le faire si Téhéran ne rouvrait pas complètement le détroit d'Hormuz. Mais selon lui, des négociations fructueuses ont eu lieu ces derniers jours entre Washington et Téhéran. Téhéran dément et affirme que Donald Trump ne cherche qu'à faire baisser les prix du pétrole, ce qui a d'ailleurs été le cas hier de 10% avant une remontée ce matin. Alors, y a-t-il ou non une amorce de dialogue entre Washington et Téhéran ? D'après le New York Times, un canal de discussion est bien ouvert entre l'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, et le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Téhéran exige une paix durable contre la réouverture du détroit d'Hormuz et la reprise des livraisons de pétrole, de gaz et d'engrais. Noé Pignade, ces négociations sont principalement indirectes.
Oui, si trois responsables iraniens confirment bien un coup de téléphone entre leur ministre des Affaires étrangères et la Maison Blanche, c'est surtout à travers des pays tiers que Téhéran et Washington s'envoient des messages. Principal médiateur, le Pakistan. Son chef d'état-major, Asim Mounir, peut compter sur ses relations privilégiées avec les gardiens de la Révolution et avec Donald Trump. Selon certaines sources, les premiers échanges par son intermédiaire coïncident avec l'annonce du président américain de reporter ses bombardements des centrales électriques iraniennes. Le maréchal pakistanais aurait même proposé qu'Islamabad accueille des pourparlers entre les deux ennemis. Avant la guerre, c'est Oman qui remplissait ce rôle, mais Mascat semble désormais hors jeu. En plus d'Islamabad, les regards se tournent aussi vers la Turquie. Erdogan rêve de se poser en leader régional, il avance ses pions. Mais Ankara est sur une ligne de crête, tiraillée entre son appartenance à l'OTAN et ses intérêts nationaux. L'Iran reste son deuxième fournisseur de gaz et l'effondrement de son voisin pourrait se traduire par l'avènement des milices kurdes iraniennes à sa frontière, milices considérées comme terroristes par la Turquie.
Merci Noé Pignade. À noter aussi que dans l'ouest de l'Irak, 15 combattants du mouvement Hashd al-Shaabi ont été tués ce matin dans une frappe aérienne. Hashd al-Shaabi, c'est une alliance d'ex-paramilitaires qui englobe des groupes pro-Iran. Si le bilan se confirme, ce serait la frappe la plus meurtrière en Irak où, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, des bombardements quasi quotidiens imputés aux États-Unis ou à Israël visent ces groupes.
En Ukraine, au moins 4 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées la nuit dernière lors d'attaques massives.
Oui, avec près de 400 drones et 34 missiles selon l'armée de l'air ukrainienne. Les bombes sont tombées sur plus d'une dizaine de sites à travers le pays, provoquant des pannes d'électricité dans plusieurs régions. Emmanuel Chasse, vous êtes notre correspondante à Kiev. Bonjour, cette nouvelle attaque d'ampleur était à craindre, puisqu'hier soir, Volodymyr Zelensky avait averti la population et l'Ukraine reste en alerte.
Oui, tout à fait. En ce moment même, Kiev ainsi que d'autres villes sont sous attaque renouvelée de drones. Il y en aurait plusieurs dizaines au-dessus du pays. Et la nuit dernière, des explosions ont retenti à Ivano-Frankivsk, dans l'ouest du pays, ici à Kiev, ainsi qu'à Zaporizhia, où une personne est morte. 2 personnes ont été tuées à Poltava. Et dans la région de Kharkiv, un homme est mort à bord d'un train régional, lui aussi visé lors de ces frappes. Le président ukrainien dénonce ces frappes contre des immeubles résidentiels. Il réitère ses demandes pour davantage de protection de l'espace aérien ukrainien et il en appelle aux partenaires de l'Ukraine, notamment les partenaires européens, à continuer leur soutien et aussi à mettre en œuvre les accords de défense antiaérienne dans les temps. De son côté, le commandant en chef des armées, Oleksandr Sirski, affirme que la Russie a intensifié ses assauts le long de la ligne de front, sans pour autant réaliser d'avancées significatives, mais à un coût énorme pour son armée, puisque selon les données ukrainiennes, ukrainienne, plus de 8000 soldats russes seraient morts ou blessés en l'espace d'une semaine.
Merci Emmanuel Chaz. Nicolas Maduro sera de retour ce jeudi devant un tribunal new-yorkais. Le président vénézuélien, enlevé début janvier par Washington, est accusé par les États-Unis d'avoir favorisé un trafic international de drogue. Nicolas Maduro et sa femme ne sont pas apparus en public depuis leur inculpation le 5 janvier. L'audience de jeudi vise surtout à régler des questions de procédure. Et puis hier au Venezuela, maintenant dirigé par Delcy Rodriguez, présidente par intérim, des partisans du pouvoir ont manifesté à Caracas pour demander la levée totale des sanctions internationales, pendant que de leur côté, des centaines de salariés et de retraités manifestaient, eux, pour demander une augmentation des salaires et des pensions gelées depuis 4 ans.
Après plusieurs années de négociations, l'Union européenne et l'Australie signent un vaste accord commercial de libre-échange.
Texte signé en Australie et en personne par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Agnieszka Kumor du service économie de RFI est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
L'objectif pour Bruxelles et Canberra, c'est de diversifier les débouchés de leurs exportations alors que la période est à la guerre et donc à l'incertitude.
Après 8 ans de négociations, la signature de cet accord est un succès pour Bruxelles et Canberra. Et les deux parties cherchent à diversifier leurs débouchés, les débouchés de leurs exportations, pour faire face aux pressions américaines et chinoises. Pression accentuée avec la guerre commerciale de Donald Trump d'un côté et la Chine qui restreint ses exportations de terres rares de l'autre. Dans ce contexte, les principaux points de discord ont été surmontés. D'abord, l'utilisation d'appellations géographiques européennes par l'Australie. Ce compromis permettra par exemple aux viticulteurs australiens d'utiliser le terme de Prosecco pour leur vin mousseux, une exemption valable 10 ans. Les termes de Feta et de Gruyère pourront aussi être utilisés par les producteurs australiens qui le font depuis au moins 5 ans. Toutefois, les quotas fixés à 30 000 tonnes pour la viande bovine australienne et à 25 000 tonnes pour la viande ovine provoquent la colère des éleveurs européens. Cela est trop, disent-ils, mais pas assez pour les éleveurs australiens qui, eux, dénoncent le pire accord de libre-échange jamais conclu.
Merci Agnieszka Kumor.
Journée de vote au Danemark ce mardi, des législatives anticipées. Mette Frederiksen va tenter de décrocher un troisième mandat.
La première ministre va tenter surtout de profiter de sa popularité. La popularité de son opposition à Donald Trump. Le président américain a clairement dit qu'il voulait s'emparer du Groenland, territoire autonome danois. Mais comme certains de ses opposants partagent sur ce point le même avis, la campagne est surtout portée sur des éléments de politique intérieure. Et Mette Frederiksen a fait campagne sur des mesures de gauche, allant parfois à l'encontre des réformes votées par son propre gouvernement. Anne Rasmussen est professeure en sciences politiques à l'université de Copenhague et au King's College de Londres.
L'enjeu clé de cette élection, c'est l'orientation économique que le Danemark va prendre à long terme. Les sociodémocrates de Mette Frederiksen font partie d'un gouvernement de coalition plus centriste, regroupant des partis de tous bords. Ils ont soutenu de nombreuses réformes de l'État-providence, mais cette fois-ci, leur campagne s'est davantage concentrée sur des thèmes de gauche traditionnels, comme par exemple une réforme du système de retraite visant à revenir sur certaines des mesures les plus radicales adoptées jusqu'à présent. Ils ont également fait campagne pour une augmentation des impôts sur les plus hauts revenus.
Anne Rasmussen avec Lila Olkinuora. En Italie, Giorgia Meloni reconnaît sa défaite. La population italienne a répondu non à près de 54% au référendum qu'elle soutenait pour une réforme judiciaire. Mais la première ministre l'a répété, elle ne démissionnera pas. Cela reste un coup dur pour Giorgia Meloni alors que se profilent les législatives de 2027.
En France, ça chauffe au Parti Socialiste.
Oui, au lendemain des municipales. Cette fois, où il n'y a pas vraiment eu de vainqueur clair. Chaque camp tente de tirer les leçons de ce scrutin et au PS, le premier secrétaire Olivier Faure fait l'objet de critiques. Avec, par exemple, l'ancien président François Hollande qui appelle à ouvrir un débat, le sénateur Patrick Kanner qui regrette un problème de fonctionnement, tandis que le maire PS Karim Bouamran appelle lui carrément à la démission d'Olivier Faure. Alors pourquoi toutes ces critiques qui visent Olivier Faure? Eh bien, il lui est notamment reproché d'avoir rendu possible des alliances avec la France insoumise. Victorien Villaume.
Le PS a perdu des villes emblématiques lors des municipales, Clermont-Ferrand, Tulle, Brest. Alors en interne, des socialistes, notamment l'ancien président François Hollande, estiment que c'est l'alliance avec LFI qui a posé problème et dénoncent la confusion des alliances dans l'entre-deux-tours. Le député Dominique Potier est exactement sur cette ligne.
On ne gagnera que dans la clarté. C'est une question d'honneur et c'est une question également de performance électorale. Les alliances avec LFI ont été totalement mortifères pour aujourd'hui pour ces municipales, mais également elles le sont à terme pour le milieu rural. Donc le temps est venu de la clarté.
Au contraire, pour le porte-parole du PS, Arthur Delaporte, la stratégie portée par le premier secrétaire avec l'idée de rassembler la gauche a été plutôt fructueuse lors de ces municipales.
Ces villes auraient été perdues en l'absence de fusion, quoi qu'il en soit. Par ailleurs, des villes de gauche ont été conservées à gauche grâce à des fusions. Par exemple, pour celles qui étaient détenues par les écologistes à Lyon ou à Tours, je pense pour celles qui étaient détenues par les socialistes à la ville de Nantes. Arrêtons de dire que tout est raté. Les socialistes restent la principale force de gauche.
Pour le porte-parole, les socialistes qui se plaignent aujourd'hui sont ceux qui se sont toujours plaints de la ligne d'Olivier Faure. Le bureau national du PS ce mardi soir promet d'être animé.
En France, un juge d'instruction va bientôt être saisi pour enquêter sur l'eurodéputé Rassemblement National Fabrice Leggeri à la demande de la Ligue des droits de l'homme. Fabrice Leggeri est l'ancien directeur de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières. Et la Ligue accuse Fabrice Leggeri d'avoir encouragé ses agents à faciliter les interceptions d'embarcations de migrants par les autorités libyennes et grecques.
Changement d'ambiance radical, vous l'aurez reconnu. Elle avait laissé ses fans suspendus à l'annonce d'un éventuel retour en concert après sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Céline Dion va remonter sur scène.
Oui, alors peut-être, on commence à avoir des informations là-dessus pour quelques concerts qui seraient à Paris. Léa Boutin-Rivière, en même temps, la chanteuse nous avait déjà prévenu dans ses titres.
Oui, avec elle, les histoires d'amour riment avec toujours. Voilà, ça n'est jamais fini. Et donc, après 6 ans de séparation, Céline Dion et son public seront réunis sur scène dans quelques mois seulement. La chanteuse devrait prendre la mer, sortir la grand voile, glisser sous le vent et jeter l'ancre à la Défense Arena en bordure de Paris pour plusieurs dates par semaine en septembre et en octobre. Alors, rien d'officiel à ce stade, vous l'avez dit Christophe, mais ce sont les informations de nos confrères du Parisien et de la presse québécoise, selon lesquelles les places pourraient même être mises en vente dans les prochains jours.
Et puis, il y a quelques signes qui ont de quoi mettre la puce à l'oreille, Léa.
Déjà, cette mystérieuse campagne dans Paris. Hier, de grands panneaux publicitaires ont fait leur apparition dans la capitale française. De simples affiches blanches sur lesquelles on peut lire, dans l'écriture de Céline Dion, « My heart will go on » ou « Pour que tu m'aimes encore » du nom de ses plus grands tubes. Christophe et Anne, pour le plaisir, je vous rafraîchis la mémoire. Entend chuchoter dans le micro. Et deuxième indice, une publication sibylline sur Instagram, une série de photos de Céline Dion à différentes époques, mais toutes prises à Paris avec cette légende, je ne sais pas comment te dire. Suspense insoutenable donc pour les fans de la chanteuse, mais une chose est sûre, ils iront où elle ira.
Merci Léa Boutin-Rivière, le suspense reste quand même entier. En tout cas, la suite
HDR, vous écoutez HDR
99.1 HDR. HDR, le mix de toutes les cultures.
HDR. In America. HDR. HDR. Le mix. Le mix de toutes les cultures.
Flashing lights, there's a rush downtown. It's a Friday night, is the siren sound. And I'm racing home, put the pedal down. Oh, I can't wait till we get to touch. Baby, we could take it slow tonight. Take it off overdrive. Come to mind and dim the lights. Just you and me. Cause baby, we could take it slow. Like the rising tide, from the moon until the morning light, just you and me. You say I don't like your friends that much. Well,
listening HDR.
Le mix des plus durs.
C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit.
HDR. Le mix des cultures.